VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 16h à Bamako et à Ouagadougou, 18h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, journée plutôt calme ce lundi au Burundi. La police est toujours déployée en masse dans Bujumbura pour empêcher les manifestations. Sur le plan diplomatique, la francophonie appelle à une reprise du dialogue politique. Nicolas Pinault.
C'est Pascal Couchepin, chef de cette mission de l'OIF, qui l'a déclaré ce lundi à Bujumbura. À l'issue de sa rencontre avec Pierre Nkurunziza, le Suisse a expliqué que l'OIF n'est pas seulement une communauté linguistique, c'est aussi une communauté de destin dans lesquelles les pays partagent des valeurs communes, notamment le respect des règles démocratiques et des droits de l'homme. L'OIF se veut diplomate et assure respecter la souveraineté du Burundi en appelant à la reprise du dialogue. Il n'est pas question d'imposer au Burundi quelque chose qui viendrait de l'extérieur et qui probablement n'aurait qu'une chance de survie assez limitée dans le temps, a souligné Pascal Couchepin. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie doit rester plusieurs mois dans le pays alors que les manifestations s'essoufflent après un mois et demi de mouvement. La nuit dernière, pour une raison encore inconnue, le marché de Kinindo a pris feu à Bujumbura. C'était l'un des grands marchés de la capitale burundaise. La plupart des commerces sont partis en fumée.
Mouhamadou Bouhari participe au G7 en Allemagne. Le nouveau président nigérian est autour de la table des 7 pays les plus riches du monde pour évoquer les problèmes de terrorisme et la lutte contre Boko Haram. Bouhari devrait également évoquer la corruption et les problématiques de développement au Nigeria. Également à propos du G7, dans le communiqué publié à l'issue de leur sommet, le groupe des 7 a réaffirmé leur ferme détermination à adopter un accord lors de la conférence de Paris sur le climat prévu en décembre prochain. Camille Grosdidier.
Le G7 s'est engagé sur l'objectif de limiter à 2 degrés Celsius la hausse de la température moyenne dans le monde, a fait savoir le groupe des 7 en clôture de son sommet à Elmau, en Bavière. En ce qui concerne l'Ukraine, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a appelé le G7 à confirmer son unité sur les sanctions contre la Russie. Le président Vladimir Poutine n'était pas invité à ce sommet pour la seconde année consécutive. La chancelière allemande Angela Merkel et le président Barack Obama sont tombés d'accord sur un maintien des sanctions tant que la Russie ne respectera pas complètement les accords de Minsk et la souveraineté de l'Ukraine. Ces accords conclus en février entre les différentes parties prévoient un cessez-le-feu qui est régulièrement violé.
Et toujours en ce qui concerne les pays du G7, et ils ont appelé lundi les autorités rivales libyennes à prendre des décisions politiques audacieuses au moment où elles entament une nouvelle session de négociations au Maroc, présentée comme décisive par l'ONU pour surmonter leurs divisions. Plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 de Muammar Kadhafi, déchirée par des combats entre des milices lourdement armées, la Libye est divisée entre deux autorités et fait face à la montée en puissance du groupe État islamique. Au Burkina Faso, pléthore de candidats à la présidence, rien que le week-end écoulé, 3 prétendants de plus se sont manifestés. Ablassé Ouédraogo, président du parti Le Faso Autrement et ex-ministre des Affaires étrangères du président déchu Blaise Compaoré. Adama Kanazoe, président du bureau politique de l'Alliance des Jeunes pour l'Indépendance et la République. Et Jean-Baptiste Natama, directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine, ce qui porte déjà à 8 le nombre des candidats. Deuil national de 3 jours au Ghana a compté de ce lundi pour rendre hommage aux victimes de l'explosion de la station d'essence et des inondations qui ont fait plus de 150 morts. Pour la circonstance, le gouvernement a convié les Ghanéens à porter des vêtements noirs ou des brassards rouges pour prier et réconforter les familles des victimes de ce double drame. Jean-Roger Bion.
Mercredi prochain, au dernier jour du deuil, un service commémoratif pour les défunts aura lieu à proximité du site de l'explosion au rond-point Kwame Nkrumah à Accra en présence du président John Mahama. Près de 10 000 personnes ont été affectées par les inondations et l'incendie qui ont fait, selon la Croix-Rouge, plus de 150 morts la semaine dernière. Les agences de l'ONU ont été invitées à collaborer avec les organismes locaux pour porter secours aux victimes de cette tragédie, qualifiée par le président ghanéen John Dramani Mahama de catastrophique et presque sans précédent. Tout est parti d'un incendie jeudi dernier, suivi d'une explosion dans une station-service de la Ghana Oil Company. Le feu se serait déclaré dans une maison avant de s'étendre à la station voisine, détruisant aussi une pharmacie et des immeubles voisins. La catastrophe a causé la mort de dizaines de personnes qui s'étaient réfugiées dans la station pour s'abriter de pluies torrentielles à l'origine d'importantes inondations.
Les Nations Unies pèsent de tout leur...
Retour des représentants de l'opposition syrienne ont entamé lundi une réunion de deux jours au Caire pour tenter de créer un nouveau regroupement élargi contre le régime de Bachar el-Assad et adopter une charte nationale. Organisée par l'Égypte, cette conférence élargie des forces de l'opposition syrienne a pour objectif de définir une vision représentant le spectre le plus large possible de l'opposition syrienne. Environ 150 représentants de différents groupes syriens ont assisté au discours d'ouverture du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, dans un hôtel au Caire.
Le parti de la justice et du développement...
Retour, nous avons quelques petits soucis techniques, je vous prie de m'excuser. Donc nous allons continuer ce journal. Conflit au Yémen pour le président yéménite Abdou Rabou Mansour Hadi. Les négociations sous l'égide de l'ONU qui commenceront dimanche à Genève n'ont pas pour objectif une réconciliation entre son gouvernement et les rebelles chiites houthis qui l'ont forcé à chercher refuge en Arabie Saoudite. Cette année, les discussions porteront uniquement sur l'application de la résolution 2216 de l'ONU adoptée en avril, qui demande aux Houthis de se retirer des régions qu'ils ont conquises et de mettre fin aux violences inconditionnellement. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État yéménite. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU dit espérer que toutes les parties négocieront de bonne foi et sans conditions préalables. La libération d'Oscar Pistorius pourrait intervenir dès le 21 août prochain. L'athlète paralympique sud-africain, condamné à 5 ans de détention pour avoir tué sa petite amie en 2013, sortira de prison donc le 21 août, mais sans certitude pour l'avenir. Le procès devant être examiné en appel en novembre, avec le risque d'un verdict plus lourd. Dans un premier temps, a précisé le chef de l'administration pénitentiaire à l'AFP, Pistorius sera confiné à domicile avec une heure seulement de liberté par jour. Et si tout se passe bien, le temps quotidien de la liberté augmentera progressivement. Pour justifier cette libération rapide, ce responsable pénitentiaire rappelle que les textes qui encadrent sa condamnation prévoient qu'ils doivent purger obligatoirement un sixième de sa peine derrière les barreaux. Condamné le 21 octobre, Pistorius aura passé 10 mois en prison, soit très exactement le temps minimum imposé. Il resterait ensuite jusqu'à la fin des 5 ans sous le régime de la liberté surveillée. Le Vatican accueillera cette semaine Vladimir Poutine. Une rencontre entre le président russe et le chef de l'Église catholique, le pape François, est prévenue mercredi. Des sources proches du Saint-Siège, citées par l'AFP, disent que l'Ukraine et le Moyen-Orient seront évoquées lors de cette rencontre, la deuxième entre le souverain pontife et Vladimir Poutine. Celle-ci intervient à un moment où la Russie fait l'objet de sanctions occidentales à cause de l'annexion de la Crimée et de son appui aux séparatistes de l'est de l'Ukraine. Et puis en Turquie, au lendemain de la défaite de son parti aux élections législatives, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé la classe politique de son pays à faire montre de responsabilité. Il est vrai que le parti islamiste de la justice et du développement a gagné 41% des suffrages, mais il n'aura pas la majorité des deux tiers souhaitée par le chef de l'État en vue de changer la constitution. Monsieur Erdogan voulait faire de la Turquie une démocratie présidentielle au lieu du système parlementaire actuel. Il devrait tenter de former un gouvernement de coalition ou convoquer de nouvelles élections. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 50 minutes pour une nouvelle page d'information.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.